France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Hi, Dolly. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore you.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. La mauvaise conscience, le crime fratricide, on connaît tout ça. Mais oublions Victor Hugo et le drame biblique. C'est aujourd'hui que cela se passe. Et oui, c'est un œil qui nous regarde. Une pupille dilatée qui dit « Je ne suis plus qu'un œil sans paupières et sans voix ». Un œil noir qui dit encore « Est-ce que vous nous voyez vraiment ?» Vraiment est souligné. Et le dessin est surmonté de cette adresse de Gaza au reste du monde. Car ce que je décris là, c'est l'une des planches de l'album du dessinateur libanais Mazen Kerbaj, qui vient de paraître chez Actes Sud sous le titre « Gaza ». Quand on ne peut changer le présent, il faut en informer le futur, y lit-on aussi. Mais pour cela, il faut pouvoir regarder, et surtout accepter de croire ce que l'on voit. Allons-y voir. Notre émission n'a jamais aussi bien porté son titre. Je veux dire qu'elle ne l'a jamais porté aussi difficilement, douloureusement, qu'au moment d'aborder aujourd'hui l'anéantissement de Gaza. Alors, on en parle quand même avec Agnès Levallois, Marion Slitine et Mathieu Pot-Bonneville. On en parle, oui. Après avoir vu le film documentaire de la cinéaste iranienne Sepideh Farsi, Put Your Soul on Your Hand and Walk, monté à partir des conversations téléphoniques et des photos de Fatima Hassona, que ses collègues photojournalistes appelaient l'œil de Gaza. Elle est morte le 16 avril 2025, avec 10 membres de sa famille dans un assassinat ciblé de l'armée israélienne. La veille, la cinéaste lui avait dit que le film était sélectionné pour le festival de Cannes. Mais ce qu'elle voulait, elle, c'était vivre à Gaza. Écoutez-la, elle parlait de fierté.
The attacks, the Israeli bombing, is it all the time or are there moments where it's calm?
Yesterday in Beit Lahia, they bombed every time and they were bombing a huge explosion. The explosion in front of my eyes. I see the area and the the air was
How does it feel being a Palestinian in Gaza today?
Is
it
some proud?
Proud?
I feel very proud because I feel I'm very chill. That are strong and brave and a very important part of the world.
Agnès Levallois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous présidez l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, après avoir été responsable du bureau Monde Arabe et Persan, la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense, mais aussi directrice adjointe de la rédaction de France 24. Vous avez dirigé le Livre Noir de Gaza, paru aux éditions du Seuil, il y a un an exactement, qui rassemblait toute une série de rapports et d'enquêtes publiées par des ONG et des médias afin de documenter les effets de la guerre menée par Israël à Gaza à la suite des attaques terroristes menées par le Hamas le 7 octobre 2023. Et vous continuez, aujourd'hui ça fait un an ce livre, vous continuez à documenter parce que c'est votre métier en fait.
Oui, absolument. Il faut continuer à documenter et tout ce qui est dit dans le livre noir, finalement, est toujours valable. Toute la structure qui est mise en place dans ce livre reste valable. Simplement, c'est augmenté de façon absolument dramatique en termes de bilan, mais aussi en termes de nouveaux sujets abordés après un an supplémentaire de ce drame absolu.
Oui, c'était il y a un an, comme d'ailleurs les images que l'on voit dans le film de Farsi dont on va parler. Bonjour Marion Slitine.
Bonjour.
Vous êtes historienne et anthropologue, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l'art palestinien contemporain. Votre thèse a reçu le prix du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et vous avez été co-commissaire avec Elias Sambar de l'exposition de l'Institut du Monde Arabe « Ce que la Palestine apporte au monde ». À la suite de quoi vous avez fondé le collectif Mahan afin d'accueillir des artistes et des créateurs gazaouis en France, souvent dans le cadre du programme d'aide en urgence des scientifiques en exil. Et ça vous prend beaucoup de temps d'une certaine manière. Il y a là, pour le coup, votre spécialité académique et cet engagement pour les artistes de plus en plus affirmé pour vous.
Absolument. Alors moi, je viens de la recherche, mais depuis 2 ans, depuis le début du génocide à Gaza, je suis devenue une chercheuse de fond. On est tous, je pense, face à une action qui doit être faite à notre endroit. J'ai vécu pendant des années en Palestine. Ça fait 14 ans que je travaille sur le sujet. Et à un moment, on ne peut pas travailler sur, mais il faut travailler avec et aussi pour. Et c'est là où je suis aujourd'hui, avec notamment le collectif qu'on a monté, Mahan for Gaza Artists, qui continue à répondre aussi à un besoin exponentiel d'artistes qui souhaitent évacuer de Gaza.
Bonjour Mathieu Pot-Bonneville.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, directeur du département culture et création du Centre Pompidou, pour lequel vous venez de publier un ouvrage co-dirigé avec Charlène Dinu, Planétarium, un atlas pour le monde à venir. Les auditrices et les auditeurs de cette émission vous connaissent bien, puisque vous en êtes sociétaire et l'infatigable pourvoyeur des cartes postales que l'on sait. Mais celui que l'on invite aujourd'hui, c'est le penseur, le regardeur, celui qui ouvre les yeux sur le temps des faits de notre monde contemporain, celui qui a écrit « Recommencer », Verdier 2018, et « Voir venir », Stock 2019, avec Marie Connet, « Recommencer »,« Voir venir ». Je vous pose tout de suite la question, peut-être, qu'est-ce qui vous a happé dans le film dont on parle, sur lequel on va commencer à parler, puis ensuite on lira d'autres choses.
En effet, la question de savoir du recommencement et du sentiment de monotonie, d'une certaine manière, de ce massacre en cours est saisissant. Et moi, j'ai un rapport citoyen et insomniaque à la question de ce qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Ce n'est pas mon objet de recherche premier, mais c'est comme les drames s'invitent au fond dans le quotidien de chacun. C'est en tant que citoyen que je suis au fond, et en tant qu'être humain, que je suis saisi par cette situation. Pour en venir un instant au film de Sepideh Farsi, ce que je trouve intéressant dans le film, d'abord, c'est la manière dont il fait fond sur une expérience assez universelle que nous avons eue il y a quelques années, qui était l'expérience de la visio. Car ce ne sont pas des coups de fil, ce sont des visios, c'est WhatsApp qui fonctionne. C'est-à-dire une expérience où on se retrouve invité dans le quotidien de l'autre et où l'autre se retrouve embarqué dans notre quotidien avec ce qu'il peut avoir au fond de familier et d'embarrassant. Et puis c'est une expérience où on voit mal. Et je trouve que le film a, parmi d'autres intérêts, parmi l'immense force de nous faire rencontrer quelqu'un, le film nous fait rencontrer quelqu'un dans l'inconfort où nous sommes de mal voir.
Oui.
Et vient souligner en quelque sorte cette question du mal voir, mal entendre. On l'a entendu dans l'extrait qui vient d'être diffusé. Ça coupe, ça ne cesse de couper, et on ne cesse de se demander si la coupure ou l'interruption ne sera pas au fond la dernière. Cette dramaturgie très ordinaire de la connexion à distance, le film, je trouve, lui donne une grande force presque allégorique à l'égard de la situation.
Et la personne que l'on rencontre, Agnès Levallois, auquel on s'attache terriblement, sa beauté, sa jeunesse, son sourire, son courage, eh bien, elle documente Elle s'appelle Fatima Hassouna et elle est photojournaliste. Et il faut voir aussi, il faut comprendre l'incroyable volonté, la rage de l'attention et de la vision qu'il faut pour prendre des photos là où elle est et dans effectivement la condition qui est la sienne.
Oui, on voit bien d'ailleurs à travers les photos que l'on voit dans le film, hein, l'œil, puisque c'est vraiment de ce dont il s'agit, avec lequel elle capte ces moments et cette dévastation tous les jours plus grande de cette bande de Gaza. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, c'est que enfin on rend visibles les Palestiniens, parce que le drame, je trouve, de cette guerre, de ces massacres depuis maintenant 2 ans, c'est que les Palestiniens, qui étaient déjà invisibilisés avant le 7 octobre, l'ont été encore plus après le 7 octobre. On parle de chiffres, on donne des bilans tous les jours, mais des bilans qui sont d'une froideur absolue, alors que derrière, il s'agit de personnes avec des histoires. Et c'est vrai que là, grâce à ce travail qui est fait, eh bien, il y a une Palestinienne, il y a ses amis autour, il y a des noms, à chaque fois, elle demande comment s'appelle la petite fille qui arrive dans l'écran. Et donc, ça permet de mettre des noms, ce sont des êtres humains et non pas, et d'aller à l'encontre de ce que veut faire Israël, de rendre tous ces Palestiniens absolument invisibles. Et donc ça, je trouve que c'est un élément très important, au-delà de la documentation, qui est absolument essentielle également.
Marion Slitine, comment vous avez vu ce film? C'est vrai qu'il y a les images, la visioconférence avec Fatima Hassouna, il y a les images de Fatima Hassouna qu'elle donne au fur et à mesure, et qui sont des séries aussi, hein, des séries photographiques, des séries de façades, de ruines, et des séries d'enfants, beaucoup d'enfants.
En fait, il faut rappeler que Fatma Hassouna, c'est une photojournaliste, mais c'est aussi une artiste, et c'est oui. Une grande artiste.
Et poète également.
Et poète. Oui. Et chanteuse, donc elle a plusieurs cordes à son arc. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, c'est de montrer à quel point les voix créatives, journalistiques, étaient une cible, en fait, privilégiée pour l'armée israélienne. Elle en est le triste exemple. Je trouve que ce qui est très intéressant aussi dans ce film, c'est de donner la voix et de donner une visibilité à cette vie dans les ruines, à cette vie dans le massacre, à travers ces images, sa vision et ce sourire qui est absolument incroyable,
qui se défait
à la fin du film. Et donc c'est comme un journal du génocide qui est particulièrement frappant.
Parce que le film il s'achève effectivement par une visio qui a lieu le 15 avril, et le lendemain, elle est assassinée. Et un mois après, le 16 mai 2025, le film est présenté à Cannes. Et voilà ce qu'en disait sa cinéaste Sépideh Farsi. C'était assez ce soir.
On sent, Sépideh Farsi, que vous avez voulu rendre hommage dans ce film à la femme, mais aussi à la journaliste.
Oui, absolument. Elle avait un regard extraordinaire, fait de tendresse et d'intransigeance, un côté très implacable. Parce que enfin, tout était compliqué en plus. Faire les photos, c'était compliqué. Avoir des mémoires flash, c'était compliqué. Charger son appareil, c'était compliqué. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de connexion. Me parler, c'était compliqué. Il fallait faire une heure à pied sous le soleil pour aller quelque part, avoir du signal pour me parler en vidéo. Après, pour m'envoyer les photos sur Google Drive, c'était compliqué. Tout était compliqué. Et elle faisait... constater plus tard que des séries de photos d'enfants, des séries de façades en ruine, des séries de décombres comme ça, et qui voulait dire qu'elle était vraiment avec une méthode extraordinaire pour son âge. À l'époque,
oui, elle avait 24 ans.
Ouais.
Agnès Levallois, il faut resituer, même si la beauté du film et au fond son inconfort, c'est dans cette conversation de deux femmes, il faut resituer Fatima Hassouna dans un collectif qui est celui effectivement des photojournalistes à Gaza.
Oui, et ça c'est très important de rappeler que depuis le début, au lendemain du 7 octobre, Israël a pris une décision qui a consisté à interdire l'entrée du territoire de la bande de Gaza à tous les journalistes, donc étrangers, sauf qu'il y a quand même des journalistes palestiniens dans la bande de Gaza, même si Israël ne cesse de dire qu'il n'y a pas de journalistes palestiniens, que ces journalistes ne sont pas capables ou ne sont pas légitimes à faire leur travail parce qu'ils sont palestiniens et ils sont tous proches du Hamas pour certains d'entre eux, même d'après Israël, des combattants du Hamas. Et donc, il y a une volonté de la part d'Israël, dès le 8 octobre, en fait, de viser systématiquement les journalistes pour surtout ne pas documenter, de ne pas donner à voir ce qui se passe dans la bande de Gaza.
Combien ont été tués ?
On en est aujourd'hui à un bilan de plus de 240 morts de journalistes palestiniens, ce qui en fait le bilan le plus important de tous les conflits, si on rapporte ce chiffre, à la population de Gaza. Et tous les jours, pratiquement, il y a des groupes de palestiniens, de journalistes palestiniens qui sont tués. Il y a eu même à un moment une tente dans laquelle il n'y avait que des journalistes et qui a été délibérément visée, et avec 5 morts d'un seul coup, si je puis dire. Et donc on voit bien dans cette idée de l'armée de considérer qu'il ne faut absolument pas que les images sortent. Alors on voit bien que c'est absurde de toute façon, parce que on le voit bien à travers le film et à travers tous ces journalistes qui sont dans la bande de Gaza et qui tous les jours nous envoient des vidéos, tous les jours nous envoient des photos, nous renseignent, nous informent sur ce qui se passe. Mais cette volonté de décrédibiliser systématiquement, avec même une unité de l'armée israélienne qui a été créée pour montrer des liens systématiques entre les journalistes visés et assassinés.
C'est l'unité de légitimation. Absolument. Des assassinats ciblés. Hein, ça s'appelle comme ça.
Et donc, ça a été créé avec l'objectif de bien montrer que, de toute façon, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des combattants ou des militants. Et donc, à partir de là, tout ce qu'ils disent n'a absolument aucune véracité.
Mathieu Pottebonneville, dans ce film « Put your soul on your hand and walk », ben on voit venir le temps, on voit venir la mort. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté poignante du dispositif de ces pieds des farcis.
C'est en effet le cas. La question de la visibilité que vous évoquiez l'une et l'autre, de rendre visible, je trouve que le film a le mérite de montrer que cette question, elle se déploie au fond sur deux plans différents. Parce qu'il ne suffit pas de montrer pour rendre visible, surtout dans une situation où les images sont interdites et où quiconque les porte est décrédibilisé systématiquement et méthodiquement par l'armée israélienne. Au fond, c'est une question qui se déploie sur deux plans, qui sont ce que j'appellerais le plan de l'incarnation et le plan de l'intercession. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette question de l'incarnation, de rencontrer quelqu'un, et c'est ce que le film propose en identifiant et en nous rendant familier ou familière d'une personne là où, en effet, il y a entre les morts israéliens et les morts palestiniens cette différence. Tous les morts se valent, mais il y a des cimetières et des fosses communes. Et au fond, cette homogénéité numérique est d'un nombre douteux, puisque chaque bilan à Gaza est suivi de la mention selon le ministère de la Santé du Hamas. Ce rapport de l'individu au nombre, il s'agit de le faire bifurquer. Et puis de l'autre côté, le film pose une autre question que je trouve intéressante, qui est celle de savoir qui intercède. C'est-à-dire qui se fait notre émissaire, l'émissaire de notre regard. Et si la cinéaste apparaît assez présente, en effet, à l'écran, on entend sa voix, on voit son quotidien, etc. Tout ça est au fond un peu encombrant à l'occasion. Mais c'est parce que cette question de l'intercession, que dans une certaine mesure, une initiative comme la Flotille pour Gaza pose aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut que quelqu'un y aille pour nous, ou aille jusqu'au bord de la possibilité d'y aller pour que notre regard chemine jusqu'à ce qui se passe. Ces deux questions-là me semblent absolument essentielles.
Marion Slitine, c'est une question qui est aussi une question visuelle et artistique. Vous travaillez sur les artistes palestiniens, que celle de cette médiation, de ce témoignage, au fond, qui témoigne.
Absolument, et je pense qu'il y a aussi un paradoxe en fait assez incroyable entre une sorte de d'hyper visibilité de Gaza. On entend tous les jours parler, les journalistes sont là, les images nous parviennent, on est témoin en fait de toutes ces images, et en même temps une sorte d'invisibilisation totale des Palestiniens. Et je pense que là, que ce soit le journalisme ou l'art, sont des actes extrêmement importants en fait pour faire justement cette médiation et se sortir en fait de ce confinement, de cet embargo, de cette cet enfermement qui dure depuis 2007 et depuis bien avant même. Et donc c'est l'art comme une manière de lier ces Palestiniens et ces Palestiniennes invisibilisés au monde, et donc l'art comme une sorte de porte-parole aussi des réalités et des massacres en cours.
Voir et ne pas voir la catastrophe à Gaza, c'était le titre d'un article de Marie-Caroline Salio, Yadzi Mirsky et Anna Gebrim dans AOC il y a un an, 2024, qui citait, c'était assez extraordinaire, un roman de Aldous Huxley, 1936, qui s'appelle Eyeless in Gaza, qui est sur l'aveuglement, déjà, l'histoire d'un journaliste anglais qui ne voit rien à Gaza, symbole de l'impossibilité de voir la catastrophe en cours. Peut-être parce que, justement, ce qui est invisibilisé, c'est aussi les conditions, en l'occurrence, de l'assassinat ciblé de Fatima Hassona. Écoutez ce qu'on disait, c'était à la Manufacture des Idées, en 2025, Eyal Weizman, c'est un architecte anglo-israélien qui travaille justement non pas à bâtir des maisons, mais à comprendre comment on a pu les détruire.
C'est-à-dire, Israël peut pixeliser des choses de façon à ce que personne ne puisse vraiment étudier ce qui s'est passé à Gaza pour empêcher les personnes qui étudient les images de prendre des informations. Sur le plafond, par exemple, nous aurions dû voir d'autres traces, des traces que nous n'avons pas pu voir. Il s'agit de violence qui passe en dessous de l'écran de radar. Normalement, les images permettent de voir la destruction. Or, la pixelisation des images empêche de voir la destruction. Et donc, nous n'avons pas pu voir ce qui s'est passé au niveau de l'endroit où Fatem communiquait.
A means of erasure. When we speak about,
même au niveau des médias, on peut effacer des choses.
Now, what is happening now,
encore aujourd'hui,
is now under another form of attack.
Ce qui se passe
not
à Rafah, il y a d'autres attaques. Il y a des drones, il y a des missiles de plus petite taille, je vais en parler tout à l'heure.
Building by
mais
building.
And tous les bâtiments sont aplatis Fatem les uns après les autres. Le bâtiment où Fatem a été tué est encore en place, mais tous les bâtiments vont être rasés. Tous les bâtiments, sans exception, sont en train d'être rasés.
Il était une fois un jour de paix.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Gaza.
Mathieu Podbonneville, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre?
C'est un travail passionnant que celui que mène Eyal Weizman, et j'ai eu la chance de l'entendre à Urigny, à la Manufacture d'Idées, cet été. C'est tout à fait frappant. D'abord, il faut rappeler qui est Eyal Weizman, qui a fondé ce collectif qui s'appelle Forensic Architecture, qui est un collectif pluridisciplinaire qui va, au fond, qui mobilise l'ensemble des savoirs pour, à partir du rassemblement de toutes les images, et on est au cœur de notre sujet, disponible sur une scène de crime donnée, parvenir à reconstituer ce qui s'est effectivement passé. Forensic Architecture, c'est vraiment, je vous recommande, très beau entretien paru à ce propos en 2015 dans la revue Vacarme, une revue chère à mon cœur, qui s'appelait Les topographes des droits humains, et c'est ça. Ce sont des topographes des droits humains, c'est-à-dire des enquêteurs qui, sur la base de l'immense somme d'images que nous possédons aujourd'hui d'un peu partout, et depuis un peu partout, parviennent à reconstituer la trajectoire d'une balle, ou en l'espèce celle d'un missile. Le travail qu'a mené Forensic autour de la mort de Fatma Hassouna, et qu'il a rendu public dans un rapport intitulé Kill the Press, montre que l'arme utilisée pour tuer la photojournaliste et sa famille, c'est un missile ciblé qui a cette caractéristique, d'une part, de n'exploser qu'après avoir traversé plusieurs étages, donc de pouvoir viser en quelque sorte l'étage où l'explosion doit avoir lieu.
Et tout est reconstitué. On a le dossier là sous les yeux.
C'est littéralement comme dans Blade Runner, quand on élargit l'image jusqu'à essayer de voir. Mais ce qu'explique aussi Weizman, c'est que l'armement utilisé fait des trous qui sont de moins de 50 cm carrés, 50 cm carrés étant la taille du pixel que les images satellites rendent disponibles et que donc cette arme est spécifiquement utilisée pour invisibiliser les assassinats ciblés, pour faire en sorte que celles et ceux qui tentent de reconstituer ce qui s'est passé depuis l'extérieur ne puissent pas le faire, faute de parvenir à voir. Guerre des images, vraiment.
Oui, point d'impact invisible, explosion massive à l'intérieur, d'une certaine manière, Agnès Levallois, c'est une métaphore du problème que vous, chercheuse, vous avez face à la nécessité ardente de témoigner et de documenter.
Oui, et d'ailleurs, dans le Livre Noir de Gaza, nous avons effectivement publié une partie d'un des rapports à l'époque du centre de Weizmann, parce que tout de suite, nous sommes aperçus qu'effectivement, là, il y avait un énorme travail qui était fait pour comprendre justement l'ampleur et la nature des destructions qui étaient menées par l'armée israélienne. Et on voit bien, avec ce travail qui est un travail d'une précision extrême, de voir comment cette armée israélienne, qui parfois nous dit, nous montre, nous démontre de la façon la plus terrible qui soit qu'elle peut absolument viser une personne, un endroit au centimètre carré près, si je puis dire, et qui, à côté de ça, peut tuer des centaines de personnes, mais en donnant les mêmes explications. Et donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose d'un peu fou dans cette façon d'analyser, de justifier ce que fait cette armée, qui, d'un côté, peut être d'une précision extrême et qui, dans le même temps, peut, alors qu'elle dit qu'elle est d'une grande précision, eh bien, peut, avec un bombardement, tuer des centaines de civils parce qu'il y aurait une personne, un combattant du Hamas qui serait à tel endroit et que ça justifie le fait que des centaines. Et donc, cette façon d'agir est une façon, et là, si on reprend la question du regard, qui est terrible.
Oui.
Parce qu'il y a d'un côté, justement, cette précision extrême et à côté, ces massacres de masse, si je puis dire, et qui rend complètement... Au bout d'un moment, vous savez, ça finit par rendre fou. Quand on travaille là-dessus, quand on regarde ce quotidien, les jours qui s'égrènent les uns après les autres, avec toute cette violence et surtout ces justifications qui sont apportées par cette armée israélienne en ce moment, dans cette façon de faire, on se dit, mais où sommes-nous ? De quoi s'agit-il ?
Mais je reste sur vous, Agnès Levallois, un instant pour... Vous étiez le 27 septembre de cette année au Théâtre de la Concorde avec des journalistes pour réfléchir à la manière de ne pas être fou, justement, de raison garder face à la nécessité, encore une fois, de documenter objectivement. Et le problème, on le comprend à vous entendre, c'est pas tant qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne croit pas ce qu'on voit. Ou plus exactement qu'il y a des techniques d'invisibilisation ou de décrédibilisation de ce qui est pourtant visible.
Oui, c'est ça qui est absolument sidérant, et vraiment j'emploie ce terme à bon escient, qui est sidérant dans cette... Alors je sais même pas d'ailleurs comment nommer ce qui se passe à Gaza. Pour moi c'est pas une guerre, parce que Israël a une armée, mais le... côté de Gaza et même du Hamas, on peut plus parler. Enfin bon, peu importe ce qui se passe, ce drame qui se passe dans la bande de Gaza, c'est que nous avons énormément d'images, énormément de vidéos, l'information, mais on l'a, moi, tous les jours sur mon WhatsApp, grâce à ce journaliste Rami Aboujamous, on a des dizaines de vidéos, donc les images, elles sont là.
Lui, c'est une agence de presse.
À lui tout seul, et qui fait un travail, en plus, en recoupant ces informations avec quand même un courage, et il n'est pas le seul, hein. Ils sont plusieurs journalistes palestiniens à encore continuer à documenter. Et en même temps, en face, il y a un narratif absolument redoutable pour justement enlever toute crédibilité à ces images, à ces récits, à ces informations qui font qu'on a un certain nombre de journalistes encore, alors je vais parler de la France, que nous sommes en France, hein, qui ne reprennent pas ces informations pour ce qu'elles sont, avec toujours l'idée qu'il y a quand même un doute. Quand même, est-ce qu'on est sûr ? Est-ce que ce sont pas des fake news ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des montages qui ont fait que ? Et donc là, on est face quand même à une situation, à proprement parler, sidérante, et je reprends encore ce terme.
Vous citiez dans un article, Marion Slitin, cette extraordinaire phrase de Jean-Luc Godard dans le film « Notre musique ». Le peuple juif rejoint la fiction tandis que le peuple palestinien rejoint le documentaire. Au fond, on comprend que ce cinéma du réel, cette visibilité, bah, ça suffit pas s'il n'y a pas autour, justement, un récit.
Et en fait, oui, ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que c'est une guerre contre le récit. Et tous les efforts, le courage absolument incroyable de ces journalistes, de ces artistes, c'est de témoigner et de continuer en fait à malgré tout à produire un récit et à produire des récits alternatifs qui justement viennent contrer ce narratif dominant israélien et qui viennent contrer cette décrédibilisation dont vous parliez, Agnès. Et la question du documentaire et de la fiction, moi, elle me semble très intéressante aussi parce que lorsqu'on contrôle finalement la fiction, c'est une manière en fait de contrôler la manière dont l'histoire elle est perçue. Alors que lorsqu'on est réduit en fait au documentaire, on est finalement réduit à être un objet du regard et on subit en fait une histoire. Et donc on pourra la manière dont les artistes reprennent leur droit aussi à la fiction. C'est les artistes palestiniens ont aussi le droit à la fiction et, voilà. Et ne pas être cantonnés seulement au documentaire, c'est aussi une très belle manière de s'émanciper de cette situation d'oppression.
Je suis Gaza Kula Yom, Gaza Kula Yom. Hana Gaza Kula Yom, Gaza Kula Yom. Comme une fleur qui ne fane jamais, tu ne cesseras de résister. Chacune de tes rues compte une histoire. Tu es triste mais plein d'espoir. Un théâtre de Shuhada, tu ne comptes plus tes jours d'adai. Relève-toi, c'est pas fini. Hana Dami Palestine, les hommes de tes enfants.
Koulayoum par Soul King avec la voix de Férouz derrière. Marion Slitine, vous aviez dit quand on parlait tout à l'heure de Fatima Hassouna, c'est une photographe et artiste. Et c'est très important et on l'a mieux compris en vous entendant aussi sur le rapport documentaire-fiction. Vous, ce qui vous intéresse aussi, ce qui vous appelle dans le drame de l'anéantissement de Gaza, c'est que c'est aussi un culturicide. C'est ce que vous écrivez et c'est contre quoi, au fond, vous travaillez en tentant justement de rassembler ce qui risque d'être détruit.
Oui, en essayant de documenter en fait cette destruction.
D'abord documenter la destruction.
D'abord documenter la destruction. La destruction donc de tous les fondements culturels de cette population, qui est donc en fait insérée dans une politique beaucoup plus longue, hein, une logique coloniale et une logique de politique culturicide qui date pas du 7 octobre. Dès les années 60-70, les lieux culturels étaient ciblés, les galeries étaient incendiées, les couleurs du drapeau palestinien.
Non seulement le drapeau, mais les couleurs, oui.
Le drapeau était interdit dans l'espace public, mais en concernant le champ culturel, la réunion des quatre couleurs du drapeau palestinien était interdite dans les œuvres, dans les peintures. Et c'est à ce titre que notamment Fateh Rabin, qui est un grand artiste qui est mort avec cette guerre coloniale, a été emprisonné en fait. Donc les artistes étaient déjà ciblés, arrêtés pour justement la valeur de témoin et la valeur de porte-parole en fait de cette nation et de cette patrie. Sauf que ce culturicide qui est en fait à l'intérieur de toute une logique plus large hein, de génocide, mais le culturicide il s'est énormément évidemment évidemment renforcé depuis octobre 2023, avec plus d'une centaine de sites patrimoniaux, de lieux culturels. Les galeries d'art ont été anéanties, les musées, et aussi le ciblage délibéré de ces voies créatives. On est vraiment dans une volonté de dissimuler et de d'effacer en fait toute trace de cette histoire culturelle. Et donc, quand on est chercheur et chercheuse sur la Palestine, une des choses qui nous reste à faire, c'est en tout cas de tenter de documenter ce qui a été détruit, mais aussi revenir sur la vitalité de ce qui a été avant. Et donc, toute une scène artistique. Gaza était au cœur d'une scène artistique régionale même. Hein. Gaza était une centralité culturelle, avec énormément d'artistes, énormément aussi de lieux culturels qui étaient évidemment, qui vivaient dans une vulnérabilité extrême, qui étaient régulièrement détruits, mais toujours reconstruits. Et donc, cette documentation de cette archive culturelle est extrêmement importante à mes yeux.
La vitalité, mais aussi l'historicité, puisque quelqu'un, un historien comme Jean-Pierre Filliou, non seulement il a fait ce témoignage très important, ce reportage, on pourrait dire, à Gaza, mais il rappelle aussi que Rafah, c'est une très vieille archéologique cité qui s'inscrit dans l'espace de l'Égypte pharaonique. C'est important, Agnès Levallois, de rappeler aussi ça, parce que Gaza, c'est pas un terrain vague.
En fait, je pense que c'est d'autant plus important que quand on parle de la bande de Gaza, on parle d'une prison à ciel ouvert, ce qui est une réalité. Avant le 7 octobre, c'était la façon qu'on avait de parler de la bande de Gaza. On parlait de cette bande de Gaza qui était un énorme camp de réfugiés, ce qui est une réalité, bien évidemment. Mais du coup, c'était un moyen de gommer toute l'histoire de la bande
ville,
de Gaza.
La ville, l'oasis.
Et puis toute cette histoire extrêmement riche. Et donc, je crois que c'est d'autant plus important de revenir et de rappeler que, d'où l'intérêt d'exposition de l'Institut du Monde Arabe, de montrer que Gaza, c'est pas simplement un camp de réfugiés, c'est pas simplement une prison, mais que c'était un lieu d'histoire et de culture avec des vestiges archéologiques qui ont tous été détruits dans cette guerre. Donc l'idée, c'est vraiment de raser absolument tout. Et ça m'amène juste à rappeler ce terme qui a été justement forgé par Rami Abou Jamouz, dont on parlait, ce journaliste palestinien, qui lui parle de gazacide, tout simplement, pour dire que à Gaza, alors ça rejoint l'écocide, le culturicide, et il parle carrément de gazacide pour bien montrer que l'objectif, c'est d'enlever, de raser et de ne plus permettre aucune vie dans cette bande de Gaza, et sans plus avoir de repères sur ce qui s'est passé, sur l'histoire et de ce qu'était ce territoire.
L'exposition dont vous parlez à l'Institut du Monde Arabe, elle est visible jusqu'au 2 novembre, elle s'appelle Trésor de Gaza, et écoutez justement l'archéologue Fadel Al-Otol, c'était à l'émission de France Inter Interception le 21 septembre de cette année.
Vous êtes ici à Genève avec votre femme, vos enfants. Vous avez encore de la famille à Gaza, notamment une fille, une grande fille qui est mariée, qui a deux enfants. Il y a votre maman aussi. Il y a des frères, il y a des sœurs. Voilà, j'entends déjà le soupir d'ici et je m'en excuse. Vous voulez qu'on arrête, Fadel? Allez, on y retourne après un petit verre d'eau.
Je suis désolé parce qu'on a coupé, parce que toujours cette question, elle m'a fait mal pour moi. Et puis ma famille, elle est à Gaza. Et moi, depuis que ça a commencé la guerre, j'ai perdu presque 43 personnes de ma famille, de la même famille que moi. Et puis j'ai ma fille à Gaza, elle est mariée, il y a deux enfants avec elle. J'ai sept frères à Gaza aussi, tous ils sont mariés, il y a les enfants. J'ai ma maman aussi, elle est à Gaza. Maintenant, les dernières nouvelles, j'ai appris avec elle. Elle m'a dit, je mets de l'eau dans une casserole, je mets un peu les épices comme ça, comme le manger. 20 kilos, elle a perdu.
Pour un Palestinien, quitter sa terre, c'est très souvent, toujours, ne jamais y revenir. Comment vous vivez avec ça?
Ça, c'est mal pour moi. Gaza, c'est ma vie. Moi, je reviens à Gaza. Sûr.
Un jour, il y aura la paix et un jour, vous reviendrez à Gaza?
Sûr, certain. 100% ça. je veux construire Gaza. J'ai une équipe à Gaza. J'ai ma famille à Gaza. J'ai ma vie à Gaza.
Ça a coupé. Une fois de plus, ça a coupé, Mathieu, pas de bonne ville.
Oui, ça a coupé. Et cette question du culturicide que vous évoquiez me faisait songer que c'est évidemment aussi pour cette raison que la mobilisation des artistes, et je ne parle pas seulement là des artistes directement concernés, mais la manière dont la mobilisation, l'alerte sur ce qui est en train de se dérouler à Gaza a très tôt pris dans le champ artistique. Si cela a été aussi intense, c'est sans doute que les artistes ont eu l'intuition, et plus que l'intuition, que le champ culturel était non seulement l'un des relais possibles de la mobilisation et de l'alerte, mais aussi l'un des enjeux ou l'un des terrains sur lesquels le conflit se déployait. C'est aussi, d'ailleurs, l'un des terrains où l'affrontement s'est très tôt déployé entre eux, et notamment entre les institutions et les artistes. On constate depuis 2023 la manière dont les crispations, les conflits, les tentatives d'intimidation se déroulent dans de multiples lieux culturels. Je pense à la manière dont une mécène a claqué la porte très lourdement au Palais de Tokyo l'an dernier, suscitant d'ailleurs une réaction collective d'un certain nombre de responsables d'institutions. Je m'honore de l'avoir signé, cette réaction, au nom du Centre Pompidou. Je pense à la manière dont Anne Goldin est intervenue en Allemagne à l'ouverture d'une exposition à elle consacrée, avec l'autorité d'une artiste incontestable, mais dont immédiatement ça a fait absolument scandale. Cette part de scandale où par ailleurs se joue autre chose, qui est l'offensive aujourd'hui un peu générale sur les libertés culturelles et sur les libertés académiques. Je pense que c'est intéressant, c'est pas tout à fait notre sujet, mais je pense que c'est lié aussi de voir comment l'alerte autour du massacre en cours à Gaza a mobilisé les artistes et est devenu un des points de cristallisation où se joue aujourd'hui la détermination des limites de ce qui peut être dit, montré, créé dans des institutions culturelles et du droit que les artistes peuvent avoir ou non de s'exprimer librement. Les exemples sont innombrables, et on a bien vu comment ça suscitait l'intervention d'un certain nombre d'autorités disant, bah, écoutez, si vous continuez d'en parler, on vous coupe les subventions, etc. Cet affrontement-là est un affrontement interne, pour le coup, à l'Occident, enfin aux États-Unis, à l'Europe, etc. Mais il relaie et reprend la même problématique.
Et si on revient à Gaza, si on essaye d'aller voir justement la façon dont les Gazaouis tentent de braver la mort, de braver cette grisaille, parce que c'est ça qui est frappant dans l'archéologie du désastre, c'est que les couleurs dont vous parliez, Marion Slétine, elles s'effacent. La ruine, elle est uniformément grise. Et justement, pour aller à l'encontre de ce gris envahissant, il y a des artistes qui font des choses toutes simples. On va écouter ça. C'est ça, juste, je vous dis deux choses, puis après vous le décrivez, Marion Slétine. Ça se passe sous une tente et on entend des drones. لا أسهر على نجوم الليل أنا نديل شيل شيل يا زماني شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالليل يا ليل ويل ويل عالظالمي ويل 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 لا أسهر على نجوم الليل أنا نديل شيل شيل يا زماني شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالليل C'est une vidéo qui circule sur Internet. Racontez-nous ce qu'on y voit, Marion Slétine.
C'est donc Ahmed Mouin Abou Hamcha qui était enseignant au conservatoire de Edouard Saïd à Gaza et qui, depuis le début de la guerre, continue contre tout à faire des ateliers sous les tentes pour des enfants. Et donc, ce qui est très frappant et ce qui qu'on retrouve vraiment dans tous les, chez tous les artistes, dans tous les médiums, disons, pas que dans la musique, bien sûr, mais c'est cette capacité à contourner la contrainte et à trouver des stratégies, en fait, de résistance. Et là,
parce que là, la basse, là, le bruit de fond.
Voilà, le bruit de fond, c'est les drones. Drone.
Et on en fait une musique.
Et on en fait, on sublime cette horreur par la création. Et donc ça paraît complètement sidérant, je reprends votre terme, mais c'est vraiment ce qui est très frappant, cet art de l'urgence. On le retrouve chez les artistes peintres qui vont continuer à dessiner avec du café, avec de l'hibiscus, avec du thé. Des ateliers qui vont se créer sous des tentes, Maïssara Baroud, par exemple, qui est un artiste qui tous les jours, qui est un artiste peintre, on parlait de couleurs, là pour le coup, c'est des dessins en noir et blanc, mais depuis le début du premier jour en fait du génocide, il va peindre, il va dessiner un dessin, et c'est une manière en fait de montrer. Ça s'appelle I'm Still Alive. Il va dessiner et mettre ensuite sur les réseaux sociaux pour montrer en fait qu'il est toujours en vie, et il le dit lui-même, c'est une manière pour moi de survie en fait, et sans cette création il ne se sentirait pas vivant. Et on le retrouve vraiment chez toute une génération d'artistes qui vont de matériaux de fortune, ils vont parfois utiliser les cartons d'aide humanitaire pour comme support, comme papier, ou toutes sortes de, il y a aussi du street art qui va se faire sur les tentes, donc notamment un artiste, Ayman Al-Hosari, qui va peindre des calligraphies, ce qu'on appelle le calligraphie, donc c'est un mélange entre la calligraphie et le graffiti, et il va le peindre sur les tentes pour tenter d'embellir un quotidien désastreux. Donc il y a toute une série de cette poursuite d'art avec rien qui est absolument frappante.
C'est d'ailleurs aussi le cas de ce dessinateur, également dessinateur au noir, avec cette gravure sombre et désespérée dont je parlais dans l'ouverture de cette émission, Mathieu Pott-Bolville, Mazen Kerbaj.
Oui, Mazen Kerbaj, qui est un dessinateur exceptionnel, dont on connaît le travail depuis longtemps. Ses albums sur Beyrouth étaient absolument bouleversants d'un usage de l'abstraction d'une certaine façon. Ce qui est intéressant dans le travail de Kerbaj, c'est à la fois dont il utilise le dessin pour témoigner du défaut d'autres images, dont il utilise l'expressivité du dessin en lieu et place de ce qu'il est difficile de voir, et puis dont il témoigne en permanence de ce qui se passe et de la difficulté de le faire voir et de la difficulté d'y réagir. L'album Gaza s'appelle en anglais, dont vous parliez en commençant, s'appelle Gaza on iPhone. On rejoint la question du téléphone et de ce qui s'inscrit dans le téléphone. Et cette question du rapport de ce qu'on peut montrer à la manière dont c'est reçu, cette question de l'impuissance lorsqu'on est à distance, toutes ces questions qu'au fond un sociologue comme Luc Boltanski posait il y a longtemps. Il faudrait relire ce très beau livre qui s'appelle La souffrance à distance. La manière dont il interrogeait les constructions par lesquelles nous tentons d'établir, de surmonter ce paradoxe de souffrir pour celui qui est loin. C'est une question qu'on peut poser en sociologue, et c'est aussi une question qu'on peut poser en artiste. Et Mazen Kerbaj la pose à mes yeux comme personne, avec un humour désespéré qui force l'admiration.
Et c'est parce que précisément les images ne suffisent pas qu'il faut que des artistes nous permettent de voir l'invisible, et c'est là où, évidemment, on retourne à notre point de départ. Agnès Levallois s'accorde finalement la création, enfin l'acte de création et l'acte de témoignage et l'acte de documentation et d'archives. Écoutez Mohamed Zanoun, qui est un photographe, qui parlait au Matin de France Culture le 13 juin de cette année.
Je m'appelle Mohamed Zanoun, je suis photojournaliste de Gaza. Je fais ce métier depuis 20 ans. J'ai couvert toutes les guerres qui ont eu lieu à Gaza, depuis les années 2000 jusqu'à ce génocide que nous sommes en train de vivre. Israël s'en fout des humanitaires, des médecins, des journalistes. Il les tue et le monde les regarde. Ma maison a été ciblée, elle a été détruite. J'ai tout juste réussi à sortir mes enfants de sous les décombres, mais mon fils a été blessé dans le bombardement. Grâce à Dieu, nous avons survécu. C'est miraculeux. Mais comme tout le monde sait qu'Israël cible les journalistes, plus personne ne veut nous accueillir. C'est trop compliqué. Les gens ont peur que leur maison soit bombardée si Israël se rend compte qu'on est là. Donc on ne peut pas rentrer chez les gens, on ne peut pas rendre visite à notre famille. On est obligé de dormir dans la rue, dans les tentes, dans la cour des hôpitaux ou dans nos voitures. Mais on comprend. On ne peut pas leur en vouloir. On a reçu des appels d'Israéliens qui nous disaient « On sait que tes enfants sont dans tel immeuble, à tel étage, on va les bombarder. » Je lui ai laissé toutes mes caméras, tout mon matériel. En réalité, c'est toute ma vie que j'ai laissée à Gaza. J'ai seulement emporté les archives de mes 20 ans de travail pour les diffuser ici en Europe.
France Culture. Allons y voir, Patrick Boucheron.
On en revient à notre dilemme moral, Agnès Levallois. Il faut voir pour croire, mais il faut aussi croire ce qu'on voit.
Oui, absolument. Et là, il y a, j'allais dire, tout un travail à faire, c'est-à-dire d'accepter, de regarder, mais aussi parce que c'est insupportable, parce que ce à quoi nous assistons à Gaza depuis 2 ans maintenant est à proprement insupportable, dans le premier sens de ce terme, que cette absence totale d'humanité, quand même, à laquelle nous sommes confrontés dans cette guerre à Gaza, et bien fait que certains, pour se protéger, se disent « mais tout ça, c'est faux, tout ça, c'est pas vrai, ces images, elles sont trafiquées, ces images, on peut pas leur accorder la confiance qu'on devrait leur accorder ». Mais pour certains, je pense que c'est aussi une réaction de défense face à l'ampleur de cette tragédie qui se joue sous nos yeux. Pour d'autres, c'est absolument délibéré. Il y a les deux aspects. Mais je peux aussi imaginer que pour certains, c'est aussi une défense. Tant ces images sont quand même absolument insupportables. Lorsque l'on voit en particulier, et là je pense à toutes ces vidéos que je reçois tous les jours de tous ces enfants, ces nouveau-nés qui sont tués lors de bombardements, et que lorsqu'on voit ces images, mais je dois avouer qu'il y a des matins où j'arrive absolument plus à les regarder moi-même, ces vidéos, oui. Tellement elles sont insoutenables, alors qu'il faut les voir.
D'où la nécessité aussi d'avoir des méthodes, de ne pas être seul, de faire des collectifs, on va y revenir.
C'est indispensable.
D'avoir des procédures, on parlait effectivement du travail que vous faites justement avec les journalistes, vous êtes aussi journaliste, parce que bon, par ailleurs, c'est aussi de bonnes méthodes que de critiquer les images, qu'il y a aussi une propagande du Hamas. Et donc, par exemple, cet été, il y a eu une polémique à propos de la couverture de Time du mois d'août, qui photographiait une distribution d'aide alimentaire à Gaza. Et puis il y a eu toute une campagne qui disait c'est faux, c'est mise en scène, etc. Et il a fallu que le journaliste prouve qu'en réalité, en extrayant, en faisant voir le hors-champ, en extrayant cette image de sa série, que c'était bien une distribution d'aide alimentaire à Gaza. Donc il y a aussi la nécessité d'avoir collectivement des procédures, des collectifs, et je dirais une sorte de discipline du regardeur.
Bien sûr, il faut être alors là d'une rigueur absolue, parce qu'on voit bien que sinon, à la moindre incartade, les conséquences sont absolument dramatiques. Parce que quand même, pour certains, il s'agit surtout de nier cette réalité. Moi, ce qui me frappe, c'est la capacité de certains de nier la réalité, de nier ces images et de remettre en question ces images qui sont quand même des images, lorsqu'elles ont subi le traitement absolument indispensable et nécessaire, montrent que nous sommes dans la réalité. Mais là, les exemples à Gaza depuis deux ans sont absolument terribles, hein, et en particulier à propos de la distribution d'aide. Et là aussi, ça a commencé très vite après le 7 octobre, hein, où il y a eu des polémiques sur le fait que c'était le Hamas qui gardait l'aide humanitaire, qu'elle la revendait, et donc que toutes les images qu'on voyait ne correspondaient pas à la réalité. Mais là encore, c'est suffisamment documenté aujourd'hui, avec suffisamment de professionnalisme de la part de ceux qui s'emparent de ces images pour les montrer, pour que l'on sache absolument que ce qui se passe est véridique. Alors qu'il y ait eu un moment ou un autre des montages et des fake news, évidemment, et que ça, il ne s'agit pas du tout de nier aussi cette réalité et de l'instrumentalisation que certains ont pu faire de certaines de ces images. Donc, bien sûr, mais ça n'enlève rien à l'ampleur de la documentation dont on dispose pour permettre de savoir exactement ce qu'il en est, et surtout de pouvoir faire un constat qui est un constat absolument imparable, que nous sommes dans une situation, et je reprends ce terme de Rami que j'aime beaucoup, de gazacide, parce que je trouve que ça résume parfaitement bien, finalement, la situation à laquelle nous sommes confrontés.
Et face à cette situation, j'en parlais au début de cette émission, Marion Slitine, vous êtes organisée avec d'autres chercheuses et artistes pour tenter d'accueillir les artistes palestiniens, parce que la plupart de ceux qu'on a entendus, hein, des témoignages, sont en exil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, comment ça se passe ?
Alors là, le pouvoir du collectif, effectivement, il nous sauve un petit peu et il permet aussi de lutter contre l'impuissance qui nous assaillit un petit peu et beaucoup, bien évidemment. Donc on a fondé ce collectif dès octobre 2023, Man for Gaza Artists, qui en fait on trouve des résidences d'artistes en France à travers donc le programme Pause, hein, qui est le programme porté par le Collège de France, et aussi des programmes étudiants. En fait, parce que aujourd'hui c'est la seule manière de faire évacuer des personnes pour venir en aide à nos collègues, en fait, à nos pères.
Et encore, c'est
pères.
Pas facile.
Parce et c'est faut, absolument pas facile,
il
puisque
faut
depuis,
les expulser.
Évidemment, et c'est extrêmement compliqué, d'autant plus que depuis le 1er août, le gouvernement a décidé de suspendre ces évacuations dans un acte de punition collective, de punir donc tout un groupe pour les tweets jugés et antisémites d'une étudiante, et donc ça a arrêté et suspendu totalement ce processus d'évacuation qui est un arrêt qui est dramatique parce que là nous ce qu'on reçoit comme témoignage des artistes c'est des adieux, c'est des testaments, c'est des messages de fin de vie, et donc on essaye de trouver depuis deux ans maintenant des structures culturelles universitaires qui sont prêtes donc à accueillir. Et aujourd'hui, on a accueilli donc 20 artistes et leurs familles.
Parfois dans des universités, à Marseille.
Que ce soit des musées nationaux, le MUSEM, Sciences Po Paris. Je veux dire, c'est vraiment des structures très importantes. On parlait de la crispation qu'il y a eu, etc. Mais il y a aussi tout ce mouvement aussi de solidarité qui rassure un tout petit peu. Et aujourd'hui, que ce soit le nombre d'artistes qui sont en demande pour être évacués, il y a aussi énormément de structures culturelles qui nous appellent pour participer à cet effort collectif.
On retrouve là la question de l'institution d'un mot, Mathieu Pot-Bonneville.
Oui, et du collectif, en effet, il faut... Le problème, vous évoquiez la question de la crédibilité des images. Le problème, c'est que aujourd'hui, il faut résister à cette tendance consistant à exiger des images qui nous parviennent de grâce des Gaza une crédibilité telle que on ne l'exigerait d'aucun autre document du monde, de telle sorte que on aboutit à ce que Naomi Klein appelle une incrédulité par défaut. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on va faire d'abord vis-à-vis d'une image, c'est de ne pas la croire. De ce point de vue, les images en intelligence artificielle montrant la Riviera de Gaza diffusée par Trump avaient cet effet aussi. C'est-à-dire qu'au fond, en montrant qu'on pouvait montrer n'importe quoi, aucune image ne vaut plus. C'est la fausse monnaie, la fausse monnaie chasse la bonne, et les images ne sont plus crédibles. Vis-à-vis de ça, je crois qu'il faut il y a un travail collectif, puisque vous parliez de sidération, je pense au mot très beau mot du photographe contemporain Smith qui parle de désidération. Il faut arriver à se désidérer collectivement, donc à échanger, à confronter les images, à confronter les témoignages.
Je vise un cessez-le-feu, je tire une doigt. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça.
encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza.
C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Agnès Levallois, Marion Slitine et Mathieu Pot-Bonneville. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Ludovic Auger et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.
Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Enfin, ces malades sont égales. Plus d'âme, sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devrait déposer quelques fleurs. À Gaza. À Gaza. À Gaza. De la même chair, la vie n'a pas de prix, mais la mort est couchée. À Gaza.